On va accueillir notre premier invité, hein, Michel. Voilà, on va voir si tout marche bien. Déjà, bonjour et bienvenue.
Bonjour Joël.
Voilà, parce qu'avec les mesures sanitaires, on est obligé de tout calfeutrer, etc. Donc Sandrine, vous nous dites si on entend bien Michel, parce qu'il a la voix qui porte, voilà l'enthousiasme. Mais le cas échéant, on enlèvera, on est en direct le film. Alors Michel, Corinne va nous rejoindre, hein, Corinne, présidente de AG33. Mais ça, ce sont voilà les aléas de la route. Donc Corinne, si tu nous entends, pas d'imprudence. Hein. Alors Michel, justement, pour ouvrir votre chronique numéro 65, alors comme je vous préparez tout, vous avez un petit mot d'introduction, donc je ne vais pas vous poser les questions, je préfère vous laisser le mot d'introduction de Michel Favret là, pour sa chronique Association Constellations des Galaxies.
Oui, ben, je voulais dire simplement que comme chaque année, la chronique de fin juillet sera principalement consacrée aux Nuits des Étoiles, hein, qui a toujours lieu en général début août, et qui se dérouleront bien sûr en 2020 dans un contexte un peu particulier. Aussi, la rubrique actualité sera réduite et bizarrement, je vais d'abord parler du ciel du mois avant de parler des nuits des étoiles, puisque ce sera l'occasion d'introduire les observations réalisables lors de ces soirées ouvertes au public.
Voilà, puis on en parlera des nuits des étoiles quand Corinne nous rejoindra. Voilà, donc chronique astre numéro 65 et vous allez nous parler donc dans un premier temps de l'actu, comme vous précisiez, la course vers Mars qui est lancée, Michel.
Voilà, nos auditeurs ont pu entendre parler dans les médias du lancement de plusieurs sondes spatiales à destination de Mars ces derniers jours. Il ne faut pas s'étonner de cette coïncidence qui ne doit rien à une sorte de course que se livreraient les nations spatiales, mais qui est un simple effet de la mécanique céleste et plus précisément des mouvements des planètes autour du Soleil. En effet, comme je l'ai déjà expliqué ici, c'est tous les 2 ans environ, si on veut être précis, c'est 780 jours, soit 2 ans et presque 2 mois, que surviennent ce qu'on appelle les oppositions de Mars, c'est-à-dire le passage de notre Terre entre Mars et le Soleil, d'où leur position opposée dans le ciel, l'un se couche quand l'autre se lève, ce qui a donné le nom de ce phénomène. À quelques jours près, en raison de leurs orbites elliptiques, c'est aussi le moment où les deux planètes se trouvent les plus proches. Alors cette année, ce sera environ 62 millions de kilomètres, le 6 octobre prochain, une semaine avant l'opposition qui, elle, aura lieu le 14 octobre. Pour bénéficier de cette distance minimum et raccourcir leur trajet, les sondes sont lancées environ 3 mois plus tôt, cet été, pour arriver début 2021, après 6 mois de voyage dans l'espace. La saison, si je peux dire, de lancement des sondes martiennes en 2020 donc débutait le lundi 20 juillet par celui de Al-Amal, soit Espoir en arabe, un satellite des Émirats arabes unis qui espère ainsi motiver leur jeunesse à de futurs projets de conquête spatiale. En effet, il ne s'agit pas pour le moment d'une nation spatiale et cette mission a été rendue possible par un partenariat avec des instituts américains pour la construction de l'engin et la JAXA, l'agence spatiale japonaise, pour son lancement par une fusée japonaise depuis le centre spatial Tanegashima. Prévu pour arriver début février, Al-Amal est un orbiteur d'environ 1,5 tonne, équipé d'une caméra et de 2 spectromètres qui lui permettront d'observer les changements de l'atmosphère martienne au cours des journées et des saisons, afin de mieux comprendre sa météorologie actuelle et comment le climat a pu évoluer dans le passé. Ce domaine est également étudié par la sonde MAVEN de la NASA, en orbite autour de Mars depuis 2014, et ExoMars TGO de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui tourne autour de la planète rouge depuis 2016. La deuxième à prendre son envol a été Tianwen, 1, propulsé par la nouvelle fusée Longue Marche 5 de la Chine depuis le centre de Wanchang, jeudi dernier, 23 juillet. Il s'agit bien là d'une des grandes nations spatiales actuelles qui développe ses propres lanceurs, sondes et satellites et opère dans de nombreux domaines spatiaux comme l'envoi de sondes sur la Lune ou des missions humaines vers leur propre station spatiale. Un peu comme l'URSS dans les années 1960, c'est d'ailleurs le grand challenger des États-Unis pour le prochain retour de l'homme sur la Lune, peut-être dans 4 ou 5 ans. Tianwen, qui signifie « question au ciel » en chinois, engin d'environ 5 tonnes, comprend un orbiteur de 3 tonnes et un atterrisseur de 1,5 tonne portant un petit rover de 240 kg pour l'exploration de la surface à partir du mois de février. Ces deux éléments sont dérivés des sondes lunaires chinoises Chang'e et du rover lunaire Yutu. Cet ensemble vise à faire progresser notre connaissance de Mars dans 5 domaines, la morphologie et géologie de la planète, par l'étude précise de ses reliefs et éléments caractéristiques de sa surface, comme les lits asséchés de rivières ou les volcans, la distribution de la glace d'eau à sa surface, la composition des roches, l'atmosphère, avec notamment des détecteurs de particules équipant l'orbiteur et le rover, et la structure interne, par des mesures de gravité et du champ magnétique. Le troisième lancement prévu est celui de mars 2020, une sonde américaine de la NASA qui est déjà prête sur une fusée Atlas V au centre spatial de Cap Canaveral et doit en principe décoller jeudi 30 juillet, après-demain. sauf aléa météo de dernière minute, bien sûr. Cet engin d'environ 3,5 tonnes devrait aussi arriver à la planète rouge en février 2021 et comporte surtout un gros rover de plus de 1 tonne, dérivé de Curiosity, qui explore la surface martienne depuis 2012. Il est baptisé Perseverance et poursuivra l'étude du sol et de l'atmosphère avec différents instruments assez analogues à ce Curiosity et aussi un petit drone. Mais l'une des principales missions scientifiques sera de recueillir des échantillons de sol sous forme de carottes et de les conserver en attendant qu'une future mission, prévue en partenariat avec l'ESA, aille les recueillir en principe en 2026 pour les ramener sur Terre en 2031, toujours en raison des contraintes de mécanique céleste rendant les transits Terre-Mars ou dans l'autre sens plus faciles tous les 2 ans. Ainsi, ils pourront être étudiés avec toutes les technologies disponibles dans nos laboratoires au lieu des petits dispositifs qui peuvent être transportés sur place par les sondes. Bien entendu, cette recherche vise toujours à déceler les signes d'une vie présente ou passée sur la planète rouge. Outre le drone, qui s'appelle MHS, un Mars Helicopter Scout, ou Ingenuity de son petit nom, la mission comporte aussi une autre première importante avec l'expérience MOXIE, ce qui veut dire Mars Oxygen ISRU Experiment. Une démonstration de technique ISRU, ce qui veut dire In Situ Resource Utilization, c'est-à-dire l'utilisation de ressources in situ, donc trouvées sur place. Elle consistera à produire de l'oxygène à partir du CO2 présent dans l'atmosphère martienne, processus très précieux dans l'optique de futures missions humaines vers Mars, car elle permettrait la vie de l'équipage en utilisant les ressources locales plutôt que de devoir transporter tout depuis la Terre, ce qui représenterait un très gros handicap en termes de poids du vaisseau. Dans cette énumération des missions martiennes 2020, nos auditeurs ont certainement remarqué l'absence de l'Europe et de l'Agence spatiale européenne ESA. Comme je l'avais dit à cette antenne le mois dernier, la mission ExoMars, qui devait décoller le 25 juillet, après un premier report, puisqu'au départ elle était déjà programmée en 2018, a encore été décalée de 2 ans, donc pour l'opposition de 2022, en raison de problèmes de mise au point de ses parachutes de freinage, dont les tests en 2019 n'ont pas été réussis, et le délai était jugé trop court pour être sûr de leur bon fonctionnement en 2020. L'agence préférant jouer la carte de la prudence après l'échec de la précédente mission de 2016, où l'atterrisseur Schiaparelli s'était écrasé à la surface de Mars. Donc cette sonde européenne visera aussi à rechercher des traces de vie, notamment en forant en profondeur dans le sol martien.
Et une belle comète dans le ciel, Michel.
Alors effectivement, et ça pourra sans doute être encore une des vedettes des prochaines Nuits des Étoiles, elle se nomme C2020F3, ce qui signifie, comme je l'ai déjà expliqué ici à propos de l'immatriculation des comètes, qu'elle a été découverte en 2020, lors de la deuxième quinzaine de mars, c'est ce que veut dire le F, et que c'était la troisième découverte dans cette quinzaine. On ajoute aussi le nom de son découvreur, NEOWISE, qui, comme on peut le deviner, n'a rien d'un astronome en chair et en os, mais consiste en un robot de surveillance automatique du ciel, NEO, car c'est la deuxième partie de la mission du télescope WISE, après épuisement en 2010 de son liquide de refroidissement qui lui permettait d'observer dans l'infrarouge à basse température. Le télescope spatial WISE, ce qui veut dire Wide Field Infrared Survey Explorer, donc en français explorateur à grand champ dans l'infrarouge, a été lancé en 2009 par la NASA, et sa mission primaire n'avait duré que 10 mois, après lesquels ses détecteurs ont été utilisés pour la recherche d'astéroïdes et de comètes. La comète qu'il a découverte le 27 mars dernier serait passée inaperçue, sauf des astronomes qui essaient d'observer ces petites visiteuses dans leur télescope, si elle n'avait pas connu une augmentation spectaculaire de sa luminosité lors de son passage au périhélie, c'est-à-dire au plus près du Soleil de sa trajectoire, le 3 juillet, au point de la rendre visible à l'œil nu dans le ciel, du côté nord, sous la Grande Ourse, lors de son approche de la Terre jusqu'au 23 juillet, c'était jeudi dernier, où il n'était qu'à, si je peux dire, 100 millions de kilomètres environ, c'est-à-dire à peu près 2/3 de la distance Terre-Soleil. Même si elle faiblit progressivement en s'éloignant de la Terre et du Soleil, elle est encore observable ces jours-ci, je l'ai vue et photographiée ces derniers soirs, et pour les Nuits des Étoiles, je pense qu'elle sera sans doute l'une des cibles des jumelles ou des télescopes, à défaut d'être encore perceptible facilement à l'œil nu. Je conseille de faire cette observation cette année, car si les calculs de sa trajectoire semblent démontrer qu'elle serait périodique, donc repassant près du Soleil à intervalles réguliers, son retour n'est prévu que dans 4500 à 6800 ans.
Alors, on est toujours dans le cadre de votre chronique, Michel, alors je vois relance possible, et Corinne qui nous a rejoint. Bonjour, bienvenue, Corinne.
Excusez-moi.
Oui, non, mais ça, c'est les aléas. Hein, voilà, il y a du monde sur la route, je crois qu'il y a eu un accident, etc. Voilà, donc ça, pas d'imprudence. L'important, c'est que vous soyez là. On en est ravis. Alors, je lis relance possible. Alors, est-ce que Corinne voulait amener des témoignages? On rappelle, vous êtes président de l'association AG33. Sur ces observations de la comète avec votre association, vous voulez intervenir? C'est marqué là. Hein. En même temps, vous n'avez pas le choix. Hein.
Tout à fait. Je rebondis un peu sur ce qu'a dit Michel, à savoir qu'on l'attendait pas vraiment, mais si, en fait, on l'attendait un petit peu avant. C'est vrai, pas longtemps, hein. Quelques jours avant son passage au Pérélie, près du Soleil, car en fait, elle commençait à devenir intéressante. Elle avait un bon diamètre. Son noyau est à 5 km quand même. Et surtout, on a surveillé sur le satellite SOHO de la NASA, qui est un satellite d'observation du Soleil, qui est placé sur les points Lagrange. Bon, après, c'est plus technique, de la Terre. Et donc, on peut la voir en direct, en fait, tourner autour du Soleil. Et comme on a déjà eu deux déceptions en début d'année avec deux autres comètes, qui ont, elles, malheureusement grillé au Soleil et qui devaient devenir visibles aussi à l'œil nu. Donc, du coup, on a bien surveillé F3. Et elle s'est avérée qu'elle a passé le cap très très près du Soleil et elle a survécu entièrement. Et donc on savait que dans les jours qu'allait suivre, on pourrait la voir à l'œil nu. Donc ça fait que le 6 juillet, il n'a pas fait beau. C'était à partir de ce moment-là qu'on pouvait commencer à la voir le matin. Alors nous, le 7, dès que le ciel l'a permis, on est de suite allé à 3h du matin sur notre site favori, au mémorial de la ferme de Richemont, à Socatz, pour commencer les observations. Et là, bien sûr, on a été bien servi.
Et les photos, parce que j'ai vu des photos
sur
Internet.
Ah, les photos, oui. Alors, j'ai beaucoup encore de photos à traiter, parce qu'en fait, le but, c'était pas tellement d'imager la comète, puisque comme elle est visible à l'œil nu, tout le monde peut le faire, même au smartphone, hein, à l'époque. Mais ça a été de trouver les premiers plans sympas. Et j'ai même un film, là, qui est sous le coup de prêt à être publié. Hein. J'attendais juste quelques données techniques. Et encore, dimanche soir, j'étais à la poursuite des premiers plans sympas. J'étais au moulin de Cussol, qui est au-dessus de Langon, et un château à Léognan, je ne me rappelle plus le nom, il faut que je trouve là aussi. Et j'ai fait donc des plans, je pense que toi aussi, tu as dû chercher des premiers plans sympas. Voilà, et puis c'est vrai que sur les forums, à droite et à gauche, on voit fleurir des Mont-Saint-Michel avec la comète, des Tours Eiffel avec la comète, bon, enfin plein de premiers plans bien sympas. Et toi, tu t'es même attardé à imager sa queue d'ion, qui est invisible à l'œil nu, elle. Une seconde queue qui est faite de ions ionisés. Et donc, voilà, moi, j'ai pas encore réussi cet exploit-là, mais bon, j'ai peut-être pas le même matériel. Et puis, voilà, on se contente de ce qu'on peut faire et le faire le mieux possible.
Alors, une petite explication. Hein, quand on a un objet comme ça très grand dans le ciel, souvent, c'est intéressant, comme on fait une photo large du ciel, d'avoir un premier plan qui rend l'image plus intéressante, comme un monument, etc. Moi, j'étais un peu feignant, je me suis mis juste dans mon village, et mon premier plan, c'est juste des arbres. Mais par contre, j'ai pas eu le courage de me lever quand on la voyait le matin, j'ai attendu qu'on la voie le soir, parce que pendant quelques jours, on la voyait le matin, puis depuis 10 jours ou quelque chose comme ça, on la voit le soir, donc c'est moins fatigant pour les astronomes un peu feignants.
C'est une semaine avant son père Élie. Puisqu'on a fait une spéciale comète, observation de la comète, le 18 juillet à Socatz, justement. Et on a eu un peu de monde, c'était sympa, une cinquantaine de personnes, et elles sont venues.
Mais moi, j'y étais encore hier soir. Parce que ce que j'essaie de faire, c'est tous les jours où il fait beau, parce que malheureusement, il y a des jours où il y a des nuages, on ne peut pas faire de photos. De faire des photos, c'est pour montrer son mouvement par rapport aux étoiles. Donc là aussi, ça va demander du travail de traiter toutes ces photos. Pour le moment, on les engrange. Mais quand j'aurai un petit peu de temps, je pourrai montrer jour après jour, ou presque, le mouvement de la comète par rapport à la Grande Ourse, parce qu'elle est passée carrément dans les pattes de la Grande Ourse.
Et pour finir, eh bien, il faut savoir que les grandes comètes, comme ça, ben, on n'en a pas souvent. La dernière, c'était Albop, en 1997. Hein, donc voilà, c'est un peu la misère là-dessus. Et donc, quand on en a une, ben, on ne la lâche plus. Hein.
Allez, on reviendra avec vous, bien sûr, Corinne, sur les animations prévues dans le cadre des Nuits des Étoiles. Mais n'hésitez pas, bien sûr, à intervenir. Hein. Il y a des relances, voilà, des respirations, comme on pourrait dire, laissées par Michel sur sa chronique. Alors, Michel, vous reprenez votre chronique. Vous allez nous parler du ciel du moins.
Voilà, hein, comme je l'ai dit au début, pour une fois, au lieu de terminer la chronique avec ça, j'aborde cette rubrique plus tôt, puisqu'elle permet d'évoquer les observations possibles lors des Nuits des Étoiles, dont nous parlerons juste après avec Corinne. Comme chaque mois, je renvoie les auditeurs vers la rubrique Ciel du mois de la section astronomie de notre site web, www.constellationsetgalaxies.org, pour voir les cartes, à la radio c'est difficile, correspondantes et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour à la fin de la semaine, je pense, parce que j'ai de la visite à la maison ces jours-ci. L'été n'est pas vraiment la période la plus favorable pour observer le ciel, avec des nuits très courtes et surtout qui commencent très tard. En ce moment, le soleil se couche vers 21h10 et la nuit arrive seulement vers 22h30, et même 23h si on attend un ciel bien noir, par exemple pour photographier la comète. À la fin août, le coucher sera vers 20h30 et la nuit vers 21h30. Comme nous sommes au cœur de l'été, en tout début de nuit, ce sont les constellations typiques de la saison qui occupent la plus grande partie du ciel, vers le sud, et celles de l'automne qui commencent à pointer vers l'est. La voûte étoilée est dominée par la figure caractéristique du triangle de l'été, formée par trois étoiles brillantes qui sont visibles dès le crépuscule et permettent facilement de situer les trois constellations auxquelles elles appartiennent. Vega, de la Lyre, la plus brillante et la plus haute, presque au zénith, c'est-à-dire au-dessus de notre tête. Altaïr, de l'Aigle, nettement plus basse, au nord-est. Et enfin Deneb, du Cygne, la plus à l'est des trois. Dans un ciel bien noir, loin de la pollution lumineuse de nos éclairages, on peut facilement distinguer le ruban laiteux de la Voie lactée, notre galaxie, dont un morceau parcourt le Cygne et le prolonge, tandis que l'autre descend le long de l'Aigle et devient très lumineux en approchant du Sagittaire, constellation reconnaissable à sa figure ressemblant à une théière, proche de l'horizon sud, juste à côté du Scorpion. La zone d'ombre séparant ces deux parties de la Voie lactée est constituée de gaz froid et de poussière, nous masquant les étoiles qui se trouvent derrière, alors qu'en réalité elles sont tout aussi nombreuses que dans les parties plus lumineuses. À l'est, c'est la constellation typique de l'automne, Pégase, qui se lève, accompagnée d'Andromède, dans laquelle les astronomes ne manquent jamais d'observer la grande galaxie la plus proche de nous, à quand même 2,5 millions d'années-lumière. C'est l'objet le plus lointain qu'on puisse distinguer à l'œil nu dans le ciel, mais son observation est bien plus intéressante dans un télescope, comme ceux que les astronomes vous prêteront pendant la nuit des étoiles. Un spectacle à ne pas rater, comme celui de la comète. Fin août, tout cela sera décalé vers l'ouest, avec en début de nuit le triangle de l'été plein sud et Pégase déjà complètement levé. Côté planète, on ne peut pas rater le phare blanc éclatant au sud-est, en début de nuit, Jupiter, qui domine de son éclat tout le ciel de l'été. Dans une simple paire de jumelles, ou mieux avec une lunette astronomique ou un télescope, raison de plus de participer aux nuits des étoiles, on peut facilement observer ces quatre principaux satellites qui forment comme un alignement de quatre petites étoiles de part et d'autre de la planète, et changent de position en quelques dizaines de minutes. À l'est de Jupiter, donc à gauche, un autre point lumineux légèrement jaunâtre, c'est Saturne, dont on peut admirer les anneaux dans un petit télescope, mais pas avec une paire de jumelles qui ne grossissent pas suffisamment. Donc encore un motif pour se rendre aux nuits des étoiles. La très brillante Vénus et la plus discrète Mercure ne seront pas observées lors de ces soirées, car si elles sont bien visibles début août, c'est seulement le matin, à partir de 3h30 environ pour Vénus. Elles sont largement précédées par Mars, bien reconnaissable à sa couleur orangée, et dont l'éclat continue à croître jusqu'à l'opposition d'octobre. Il se lève actuellement vers 00h30, mais ce sera dès le début de nuit, fin août. Comme toujours, ces planètes produisent des conjonctions avec la Lune. Dès ce samedi 1er août, avec une très grosse Lune, presque pleine, proche de la brillante Jupiter, environ la largeur d'un doigt bras tendu. Puis le lendemain, dimanche 2, où elle formera un triangle aplati avec Saturne et Jupiter. Il faudra ensuite attendre le dimanche suivant, le 9, pour voir une lune légèrement gibbeuse accompagner Mars dans le ciel à partir de minuit environ. Puis le matin du samedi 15 août à partir de 3h30 pour voir le croissant de lune assez proche de la brillante Vénus, environ la largeur de trois doigts bras tendus. En fin de mois, la lune repassera successivement près de Jupiter le soir du vendredi 28, puis Saturne le lendemain soir, le samedi 29. Pour les nuits des étoiles, on aura dépassé la pleine lune du 3 août, et il faudra donc essayer de profiter des objets pâles dits du ciel profond, c'est les objets lointains comme les amas d'étoiles, les nébuleuses, les galaxies, plutôt avant son lever, vers 23h le vendredi 7 ou 23h30 le samedi 8, ce qui laisse assez peu de temps après le crépuscule. Ensuite, il vaudra mieux se tourner vers les objets brillants que sont les planètes Jupiter et Saturne, et bien entendu la lune elle-même avec ses reliefs, cratères, montagnes et mers. En ce moment et jusqu'au lundi 3 août, on peut voir en soirée l'ISS, la Station Spatiale Internationale, traverser le ciel d'ouest en est comme un point très brillant en environ 7 minutes, soit bien plus vite qu'un avion. Il y a actuellement 5 hommes à bord, l'équipage de la mission 63, un commandant américain et deux Russes, qui a été rejoint le 31 mai dernier par les deux astronautes du test de la capsule privée Crew Dragon de SpaceX. Après 2 mois passés en orbite, ils doivent en principe revenir sur Terre ce dimanche 2 août, Malheureusement, l'ISS ne traversera pas le ciel des Nuits des Étoiles. C'est pourtant un spectacle toujours apprécié du public, car elle ne redeviendra visible qu'en fin de mois et le matin vers 5-6 heures. Pour connaître ses horaires de passage visibles, qui changent tous les jours, je conseille de consulter le site en ligne Events Above, qui donne beaucoup d'informations sur les satellites et en particulier l'ISS.
Allez, toujours en direct sur de radio, c'est la chronique numéro 65, chronique astro de Michel Favré. Et là, Michel, vous allez nous parler du sujet, du thème, les Nuits des Étoiles 2020.
Voilà, je pense que tout le monde connaît probablement cette manifestation nationale qui est très populaire et qui existe depuis 1991 à l'initiative de l'AFA, l'Association française d'astronomie, qui est la fédération regroupant la plupart des clubs d'astronomie en France. Les plus anciens se souviennent peut-être des premières éditions qui donnaient lieu à toute une soirée d'astronomie sur Antenne 2, comme elle s'appelait à l'époque, avec des intervenants prestigieux comme par exemple Hubert Reeves, que tout le monde connaît. Cette période dorée est bien révolue puisque France Télévisions a cessé son partenariat en 2003 et que depuis 2016, le ministère de la Recherche ne soutient plus cette opération. Malgré ces aléas, elles auront encore lieu cette année, c'est la 30e édition. Et au-delà de son financement, c'est bien sûr le contexte de la Covid-19 qui rend leur organisation plus compliquée. Certains clubs, comme le mien, dans un petit village de Dordogne, ont renoncé en raison des règles sanitaires difficiles à mettre en œuvre par une petite équipe, ou parfois ce sont les autorités administratives qui n'ont pas permis la tenue de ces manifestations, comme pour l'association Vega de la Lyre, qui avait prévu comme chaque année une soirée d'observation à Vers. Son secrétaire m'a précisé que leur observatoire restait néanmoins ouvert au public tous les samedis soirs, avec bien entendu respect des gestes barrières et port du masque obligatoire. Cette année, les Nuits des Étoiles se dérouleront du vendredi 7 au dimanche 9 août, et pour avoir le détail des manifestations, les dates et les lieux, le mieux est de consulter le site en ligne de l'AFA, www.afastronomie.fr, puis le choix Nuits des Étoiles dans le menu événements. On y trouve une carte indiquant les animations qui auront lieu partout en France.
Alors, où se rendre près de Bordeaux pour regarder dans un télescope,
Michel? Alors, pour la région de Bordeaux, si on zoome sur la carte du site de l'AFA, voilà ce que j'ai trouvé hier en préparant la chronique. Bien sûr, à G33, dont la présidente Corinne nous reparlera plus en détail, donc qui avait Cap Science et la SAB, Société Astronomie de Bordeaux, à Mérignac pour la soirée du vendredi 9 et à Socat le samedi 8. Il y a la Maison de la Nature à Gradignan pour la soirée du vendredi 7. Il y a Jalles Astronomie à Martignas-sur-Jalles le vendredi 7 et aussi en soirée. Et le dimanche 9 à Pessac, dès l'après-midi 14h, puis en soirée en partenariat avec l'association Écocide du Bourgail, qui proposera aussi de découvrir la nature de nuit. Bien entendu, toutes ces informations sont sous réserve de modifications et d'une météo favorable, car l'observation du ciel est difficile à pratiquer sous les nuages et encore moins sous la pluie. Je conseille donc de revérifier sur le site de l'AFA ou éventuellement en contactant les organisateurs si on a des doutes.
Voilà, alors avant qu'on retrouve Corinne qui va nous parler des animations proposées par G33, juste pour préciser, on aura Marie-Blandine de Cap Science qui seront présentes lundi. Voilà, faut s'adapter également. Voilà, on n'a pas réussi à avoir un plateau avec toute l'équipe de Cap Science en même temps que vous, Michel et Corinne, mais ça permettra de reparler des Nuits des Étoiles. Alors Corinne, juste avant de parler des animations, en quelques mots, votre club d'astronomie, toujours des passionnés, toujours là.
Voilà, nous sommes une quarantaine d'adhérents. C'est en fait un groupe d'astronomateurs, mais qui sont pas débutants. C'est des avertis, à tous les niveaux, mais qui connaissent au moins la pratique d'un instrument et leur ciel. En fait, nous partons du principe que l'astronomie doit être accessible à tout le monde. Déjà que les instruments, c'est pas donné. Donc, on part du principe qu'il n'y a pas besoin de prendre une adhésion ou de payer quoi que ce soit. Maintenant, nous, on a l'avantage d'être en nomade, c'est-à-dire on n'a aucun terrain propre, on n'a aucune coupole à entretenir. Et du coup, on peut se permettre d'inviter les gens à venir donc sur ce site du Mémorial de la Ferme de Richemont, qui est un lieu public, pour apprendre donc l'astronomie observationnelle, son temps. Donc avec soit l'instrument, soit avec ses yeux, lire le ciel, reconnaître certaines constellations. Donc tout ça dans la bonne humeur, évidemment, et de manière ludique. Et ensuite, on fait les grandes animations, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça qu'a été créé le club à la base, je vous dirais. On n'était qu'un groupe de copains qui s'amusions. Et puis finalement, on nous a titillés pour faire des vraies animations, mais il nous fallait une assurance. Donc allez hop, on a créé ce club il y a une dizaine d'années, cette année. Voilà, on vous devait fêter ça joyeusement, et puis bon, comme tout le monde, le virus est arrivé, et puis ça nous a mis un peu tout par terre.
Alors justement, on va évacuer façon de parler le sujet avec cette crise sanitaire. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu un doute, vous dire est-ce qu'on annule ou pas? Ben, c'est vrai, depuis quelques mois, bon, c'est une période singulière. On n'arrêtera pas de le répéter. Voilà. Alors à un moment donné, on annule tout. Finalement, on se dit on peut organiser des événements avec bien sûr certaines précautions. Donc sans entrer dans le détail absolu, parce que l'important c'est de développer les animations. Mais à un moment donné, c'est quoi? C'est le doute, on annule.
Alors,
Je
suis d'une nature optimiste, toujours. Donc, j'attendais toujours les dernières infos. C'est-à-dire, quand ils nous ont dit que le confinement s'achevait que le 11 mai, ben, c'est là que j'ai annulé, ils ont dit ça en avril, c'est là que j'ai annulé notre rencontre le 9 mai. Voilà, après, j'ai fait tout au fur et à mesure. Pas question, bien sûr, que j'ai été pris de doute. Et puis, je le suis encore. Hein. Sur les nuits des étoiles, je ne suis pas tranquille du tout. Hein. J'espère que tout le monde va jouer le jeu, que surtout du masque obligatoire. Hein. On a décidé ça récemment parce qu'on a fait une animation du côté de Langon vendredi dernier. Le masque était obligatoire et les gens ont joué le jeu. Et ça me fait bien plaisir qu'il n'y ait pas eu un seul râleur. Les gens se tenaient à distance. C'était par groupe de familiaux. Donc les parents, les enfants qui approchaient du télescope, qui regardaient. Après un petit nettoyage, et c'était le groupe suivant, ça se passait très très bien. Et ça, je pense que maintenant, je suis un peu plus rassurée que pour les Nuits des Étoiles, effectivement, c'est surtout la densité de curieux qui va être à gérer. Et quand j'ai vu comment ça se passait à Malaga, donc c'était au domaine de Malaga, j'étais franchement rassurée ce côté-là.
Voilà, c'est important d'en parler, des mesures sanitaires. Oui. Voilà, mais chacun adopte les gestes citoyens, solidaires, un petit peu, des fois, de rappel à l'ordre, parce que c'est vrai que des fois, on se rappelle plus, hein, parce qu'on est bien là entre passionnés, entre les érudits, puis peut-être certains curieux, dans le bon sens du terme, qui vont venir. Voilà, si on oublie à un moment donné, il faut juste le rappeler. Donc, on va rester. Mais vous êtes chez vous, Michel, intervenez quand vous voulez.
Non, juste dire un petit mot, peut-être, pour expliquer, parce qu'on pourrait s'interroger pourquoi porter un masque, alors c'est une activité de plein air. Donc il faut bien comprendre que quand on observe dans un instrument, on vient se mettre tout près de l'instrument.
Oui, puis il y a l'échange. Ah,
donc un peu là, comme avec le micro, on risque de transmettre aux autres par voie respiratoire, comme on dit, le virus si on est porteur. Et on vient aussi mettre l'œil très très près de l'oculaire, hein, d'où des mesures de nettoyage et autres qui sont obligatoires.
Hein. C'est du partage.
Voilà. Après, pour parler du ciel, montrer les constellations, tout ça, on peut se tenir à distance les uns des autres. Mais pour observer dans un instrument, il n'y a pas de choix. On vient tout près de l'instrument, chacun son tour. Donc il faut prendre des mesures en conséquence. Quoi.
Oui, mais sur une animation, tu peux être très vite entouré d'une dizaine de personnes.
Hein. Et c'est ce que j'ai dit. On l'oublie parce qu'on est passionné. On a envie d'entendre si Corinne ou quelqu'un de l'association, si vous amenez des renseignements, des infos, des conseils.
Exactement.
Etc. On a envie de se rapprocher pour entendre et puis d'échanger. Alors, quelles sont les animations, donc, du coup, Corinne? On peut les trouver, hein, d'ailleurs, sur le site ag33.fr.
Voilà, vendredi le 7 août, c'est Cap Science qui organise à RES Pass à Mérignac, quartier Beaudésert. Bon, Bandy nous en parlera mieux. Nous, on va surtout être côté observation, hein, avec la Société Astronomique de Bordeaux et l'association AEPIC. Voilà, on aura nos instruments et on va donc inviter effectivement les gens à venir voir. Le lendemain, samedi 8 août, en fait, normalement, on aurait dû aller du côté de Saint-Savin, mais ils ont annulé très tôt. C'était encore en confinement, on était début mai. Alors donc, puisqu'ils ont annulé, nous, on a décalé notre propre Nuit des Étoiles au samedi 8 août. Et ensuite, on le fera au mémorial de la ferme de Richemont, comme chaque année. Et là, effectivement, rien ne change, à part le fait qu'on va imposer effectivement le masque obligatoire et qu'il y aura de la solution hydroalcoolique donc à disposition. Ensuite, le lendemain, on s'expatrie, hein, on va dans les Landes, mais sur un site que j'invite tout le monde à découvrir, hein, c'est l'écomusée de Marquèze, près de Sabre. Et on y va par un petit train, et on en repart par un petit train d'ailleurs, c'est très sympa. Et donc faire la Nuit des Étoiles là-bas, sous le ciel noirlandais, c'est un régal, hein, je dirais. Et puis, pour finir, on va aller du côté de Fargues-Saint-Hilaire le 15 août. Donc, puisque la FA nous permet d'étaler les Nuits des Étoiles jusqu'au 22 août, on va aller le samedi 15 août à Fargues-Saint-Hilaire, au domaine de la Fraise, chez l'UFCV, pour faire une Nuit des Étoiles, comme on a fait l'année dernière, qui a très bien fonctionné. Et ils veulent remettre ça. Donc, on va le refaire tranquillement et toujours avec les mêmes gestes barrières.
Voilà, je le note, Corinne, en même temps que je vous écoute avec attention. Ce sont des partenaires également, l'UFCV, donc on n'hésitera pas à inviter. Alors, c'est vrai que quand vous parlez de Marquez, la plupart des scolaires de Gironde et d'autres départements, bien sûr, on connaît le lieu. Là, il risque pas y avoir beaucoup de monde.
Ah, mais oui,
donc, il doit y avoir un système de réservation,
alors,
je présume.
Alors, effectivement, pour le vendredi 7 et le dimanche 9, c'est à réserver directement auprès de l'organisateur, hein, donc Marquez, c'est directement Marquez, et pour Cap Science, ils ont un numéro, hein, tout est mis sur les topics.
Voilà, parce que comme
Facebook.
Vous, façon de parler, vous le vendez tellement bien, c'est vrai que si tout le monde se dit oui
nous,
parce qu'il y a un cadre, un environnement.
Au mémorial, ce sera en accès libre, hein, j'ai pas envie de gérer des réservations. C'est beaucoup trop de travail et effectivement, quand il faut passer par là. Mais bon, nous, au Mémorial de la Ferme Richemont, je vous dirais que le site qui est tellement à l'écart que ça limite déjà les venues. Hein, ça m'étonnerait qu'on dépasse trop de monde. Hein, je pense 200 personnes, c'est déjà bien.
Alors Michel, vous serez où, vu qu'avec Constellation, c'est pas histoire d'enquêter dans votre vie privée, mais là avec votre association, pour les raisons que vous avez évoquées, vous n'allez pas organiser, alors vous qui êtes également un passionné comme Corinne et tant d'autres, comment vous les vivez vous et comment vous allez les vivre ces nuits des étoiles, parce qu'il y a plein de spots comme on dit.
Nous on va rien faire de particulier parce qu'on est un beaucoup plus petit club, on est même pas 10, donc déjà tout le monde n'est pas toujours disponible pour participer à ce genre de manifestation publique. Donc s'il faut en plus faire respecter les distances, le port du masque, etc., ça, en discutant avec les membres, on a trouvé que c'était trop compliqué. On n'est même pas sûr, d'ailleurs, puisqu'on a décidé de pas le faire, on n'est même pas sûr que la commune nous aurait autorisé à le faire, hein, parce qu'on est sur un terrain communal, donc il nous faut son autorisation.
Il y a également
pour
les prérogatives propres, ouais. Bien sûr, arrêté municipal, etc.
Du coup, on ne fera rien de particulier, sauf que comme c'est un vendredi, un samedi, enfin, moi, j'exclus le dimanche, parce que malheureusement, il y a des gens qui travaillent le lundi.
Heureusement qu'il y a des
heureusement. Non, mais pour l'astronomie, c'est malheureusement. J'ai toujours en tête un dicton que j'avais lu il y a longtemps en américain, mais je vais vous le faire en français. C'est qu'il y a trois choses qui sont incompatibles. C'est une nuit claire, hein, donc sans nuage, sans lune, parce que la lune nous gêne pour observer, et pour laquelle on ne travaille pas le lendemain. Donc le fait de travailler le lendemain, ce n'est pas très pratique pour l'astronomie. Donc comme c'est un week-end, on fera simplement une observation, comme d'habitude, entre membres du club. Hein, on fait des observations, mais pas avec le public.
Voilà. Et chacun pourrait, façon de parler, s'éparpiller, parce que c'est vrai que...
Non, mais c'est très compliqué, hein, vous en parlez, mais
non,
c'est très compliqué.
Citoyen, parce que... on peut dire, tiens, par exemple, je n'ai pas eu l'occasion d'aller à tel endroit et autres, des fois on peut profiter, parce que je sais que vous voyagez beaucoup, Michel. Hein.
On n'a pas de local propre. Donc les réunions du club se faisaient dans une salle communale. Bon, depuis le confinement, la salle communale n'est plus utilisable. Donc ça fait 6 mois presque qu'on n'a plus de réunions du club. On fait des observations. Depuis la fin du confinement, on a repris des observations, mais simplement entre membres du club, hein, parce que là aussi, une fois par mois, on recevait le public relativement peu nombreux. Hein. Souvent, c'était une famille qui passait nous voir ou quelque chose comme ça. Mais on a pour le moment exclu toute activité publique.
Voilà, faut
donc
s'adapter,
on fera une petite observation s'il fait beau. Hein, parce
bon.
Que la météo, c'est le point crucial, hein, pour l'astronome.
Donc vous resterez en Dordogne. Hein.
Voilà, oui, je serai en Dordogne. Il n'y a pas de problème.
24 forever.
Corinne.
Mais allez-y, mais bien sûr, je vous en prie.
Parce qu'il parle justement de salle et ça va être un petit changement cette année. Effectivement, d'habitude, on a la salle des fêtes de Sourcats en cas de mauvais temps. Et là, pour le coup, à cause des restrictions, toutes les salles nous sont interdites. Donc, du coup, ce sera tout simplement annulé, du moins pour Socats, hein, s'il pleut. Parce que si c'est couvert, on fait quand même les conférences, on montre des instruments. Par contre, j'ai vérifié la météo, il va faire super beau. Donc, voilà, il ne faut pas se décourager. Super.
Mais, moi, je suis de naturel moins optimiste que Corinne. Donc, la météo, moi, j'y crois 48 heures avant. Les prévisions à long terme, je ne les regarde même pas.
Oui, il faut rester positif. En même temps, si la pluie vient s'immiscer, voilà, c'est bien le préciser, mais on va enfin, tout faire, croiser les doigts. Je ne sais plus tout ce qu'on pourrait faire pour qu'il fasse beau.
Et un petit dernier petit rappel, oui, c'est souvent on confond la nuit des étoiles, les animations d'astronomie, avec la nuit des étoiles filantes, qui est en fait la nuit du pic des Perséides. Tu n'en as pas parlé.
Non, je ne parle pas.
Donc, celle-ci...
Attention, Michel.
Elle arrivera, mais ça, il faut le rappeler en permanence.
Corinne qui va venir faire la chronique.
Oui, voilà.
Mais
notez pour la chronique 66.
Sur les étoiles filantes, sur les Perséides, juste un petit détail, c'est qu'au départ, ça s'appelait la nuit des étoiles filantes. Oui. Ça a été créé en 1991. Et après, ils ont laissé tomber le terme étoile filante, et c'était devenu la nuit des étoiles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce sont les nuits des étoiles. Parce que dans le passé, c'était une soirée. Et justement, à cause des aléas météo, c'est mieux de prévoir 2-3 soirs. Hein, comme ça, les clubs peuvent éventuellement s'adapter à la météo en changeant de date ou autre au dernier moment. Et donc, depuis, ça doit faire au moins 4 ou 5 ans, c'est 3 nuits, vendredi, samedi, dimanche du même week-end. Mais au départ, ça s'appelait bien la nuit des étoiles filantes.
Donc les Perséides sont actuellement visibles. Hein. Ça y est, ça a commencé le show. Hein. On en a profité déjà. Bon, avec la lune montante, forcément, ça va être un peu compliqué de les observer. Mais bon, il y en a certaines qui sont tellement brillantes qu'on les voit quand même. Mais donc, le pic de cette pluie d'étoiles filantes, hein, je rappelle que c'est des poussières de comètes, justement. Bon, ce ne sera pas la comète Neowise, mais la comète Swift-Tuttle qui nous laisse ces poussières. Et donc, le pic de cette nuit sera dans la nuit du 12 au 13 août. Donc, c'est là qu'il faudra vous allonger avec une couverture dans l'herbe. Et non, essayez de venir sur la nuit, les nuits des étoiles, les animations, en disant « Mais où sont les étoiles filantes ?»
Ben on en verra.
On en verra.
Quand on est dehors, on voit toujours des étoiles filantes. Alors, puisque Joël disait que je voyageais, j'étais il y a quelques jours en Isère.
Je
ne rentre
pas dans ma vie privée, hein, Michel, j'étais mais quelques, on a l'occasion d'en discuter, puis je vois les photos sur les réseaux sociaux.
J'ai un de mes fils qui était là-bas, et on a regardé le ciel avec ses beaux-parents, d'ailleurs, on était chez eux. Et ils ne regardent pas tellement le ciel, ce n'est pas leur truc, mais comme j'étais là, ben on s'est un petit peu forcés, tous, pour regarder le ciel. Et on était en train de regarder, justement, du côté de la comète, avec une paire de jumelles. On attendait le passage de l'ISS qu'elle arrivait, et on a vu une magnifique Perséide tomber. Et c'était vraiment impressionnant, parce que ça a fait vraiment un trait très, très, très lumineux dans le ciel, et elle a explosé à la fin en plusieurs morceaux. Ça, c'est quand même assez rare. Ça, au point que les personnes chez qui on était pensaient que c'était un feu d'artifice. Mais j'ai dit non, c'était pas un feu d'artifice, c'était bien une étoile filante, une grosse étoile filante.
C'est Michel, dimanche. Oui, on va... Allez-y, non. Si vous voulez compléter.
Non, c'était parce qu'il y a eu une observation de météore dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h12 à peu près.
C'était vendredi soir.
Michel, on se revoit le mois prochain ou on est sur une période particulière, estivale, on maintient le rythme ?
Oui, j'ai même pas regardé le calendrier, mais en principe, c'est le dernier mercredi du mois. Aujourd'hui, on l'a fait mardi, là aussi pour des raisons personnelles, parce que je suis venu chercher mon autre fils au TGV ce matin.
On sait tout avec Michel. Voilà. Hein.
Mais ça m'arrangeait de venir le mardi plutôt que de revenir encore le mercredi.
Puis on peut s'adapter, sinon rendez-vous est pris pour le dernier mercredi.
Dernier mercredi d'août.
Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot, Michel, avant ces nuits des étoiles et Corinne, on va lui dire.
Souvent, on parle un
également.
Petit peu de l'association, Constellation et Galaxies, mais comme je l'ai déjà dit la dernière fois, il n'y a plus grand-chose à en dire, parce que malheureusement, parmi les activités qui sont impossibles aujourd'hui, avec les mesures sanitaires, il y a les animations de planétarium, comme je pratiquais avant, dans un espace confiné, avec ce qui était au départ une vingtaine d'élèves, maintenant il faudrait réduire à un groupe beaucoup plus petit. Avec le brassage de l'air, etc., les petits planétariums ne peuvent plus fonctionner. Les grands planétariums ont repris. Hein, si des personnes, par exemple, pendant les vacances, ont l'occasion d'être dans une ville où il y a un grand planétarium, les grands planétariums ont repris, mais un peu comme les salles de cinéma, avec un nombre de participants limité par rapport à la capacité. Mais les petits planétariums comme le mien ne peuvent plus fonctionner du tout. Donc l'association, on pourrait dire qu'elle est un petit peu à l'arrêt là, en ce moment.
Voilà, mais néanmoins, il y a toujours le site, même si pour les raisons familiales, qui sont des bonnes raisons. Voilà, mais vous allez mettre cette chronique très prochainement, constellationsetgalaxies.org.
Voilà.
Michel, merci beaucoup, mais on restera en lien, et puis on se retrouve fin août. Alors Corinne, on va rappeler le site internet présente
si
pour ces nuits des étoiles.
Connaître toutes nos dates d'animation et surtout d'observation mémorial de la firme de Richemont, c'est sur le site www.ag33.fr, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à venir hors animation pour qu'on vous apprenne le télescope, à lire le ciel, etc. Pendant les animations, ce n'est pas possible parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Mais hors animation, ce sera un plaisir de vous accueillir au mémorial afin de partager un petit bout de ciel que nous offre la nature.
Voilà, puis via le site, on a toutes les informations, bien sûr, de l'info, les contacts. Corinne Michel, merci. Voilà, c'est une année particulière, mais bon, vous êtes toujours là pour faire partager votre passion. Michel, on se revoit pour la chronique donc fin août. Et puis Corinne, sur d'autres événements, il ne faut pas hésiter à venir. Voilà où on attend 2021 pour les prochaines. On va vivre ces nuits des étoiles qui arrivent. En tout cas, merci pour l'enthousiasme habituel.